Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 18 mai 2007 et non, nous sommes le 26 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, cinéma, DVD, TV.
Et ensuite,
du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie.
Et suivi de,
à 15h, Big Bang, et de 17h jusqu'à 2h du matin, nous sommes en direct du Star Festival qui a lieu en extérieur en collaboration avec Explosion d'Usine. Vous en avez eu plus d'infos hier, la semaine dernière, excusez-moi, c'est à Terre Blanche Saint-Lys. Bonjour Laurent Veil, comment ça va?
Ça va Xavier. Je cherchais pas de... Parce que t'es... Non, tu peux pas être comparé à quelqu'un, donc c'est pour ça.
Oui, merci. C'est le supplément week-end comme d'hab.
On est quel jour?
Le 25, voilà. Je...
De quelle année?
Le 6, le 26. Et merde.
Non, on est le 25, hein.
Ça va pas mieux du tout.
Non. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, t'as repris l'affiche de la semaine
dernière. Non, ma montre m'indique 26.
On est le 26, mais t'as mis la semaine dernière qu'on était à 18. Donc, comme t'as fait plus 7, ça fait 25. Mais la semaine dernière, on avait déjà les hors de date.
Merci. Les Silent Poets, pour commencer. Save the Day, Restless Soul, Peck Time Mix. We'll be right back. Oui, si je donne pas matière à Thomas pour faire son procès-verbal en fin d'émission, effectivement, ça manque un peu, je dirais, de tenue dans cette émission. Voilà, je crois qu'il y a... Il y a...
Oui, il va y avoir des cagades. Ouais.
Il y a des cagades. Je tiens à signaler à Dusport que s'il n'a pas sa lampe frontale tout à l'heure, il va avoir du mal à lire puisque on est en panne de lumière dans le studio, donc c'est pas évident. Il y a côté invité, il y a quand le rouge micro émis, ça va, mais après côté réalisation, il y a rien. Je vois même pas les VU-mètres ni quoi que ce soit. Et en plus, il y a un truc qui fait bip bip de temps à autre sous la table. Je suis sûr que ça y est, le ministère de l'Intérieur et de l'Identité ethnique est en train de préparer le rééquilibrage du temps de parole de cette radio.
En plus, vous l'aurez remarqué, comme c'est super soleil dehors, ça aide beaucoup.
Ça aide beaucoup, voilà. C'est des conditions de travail qui sont catastrophiques. Heureusement qu'on fait ça pour le fun. Moi, je plains d'autres qui sont à l'extérieur, puisque la radio est en direct en extérieur à partir de 17h pour le direct festival Explosion d'usine dont on a reçu la semaine dernière Alexandra pour ça. Et que donc ils sont à la Terre Blanche sur Saint-Lys, qui est à mon avis une météo à peu près identique à la nôtre. Et donc ce soir, eh ben, il y aura des émissions, des interviews à partir de 17h, notamment Besseron qui est au Voltigeur, qui sera en direct de là-bas, Los Martinez, un collectif graffiti de Barcelone, mais aussi... Il y a donc les stands d'explosion d'usine qui seront en direct du festival là-bas. Et à 21h, du concert spécial Emo, Emo Rock, Emo Hardcore, Emo N'importe quoi avec deux Leningrad 2, c'est l'Emo Fanfare Russe. Semi-playback, c'est l'Emi Semi-playbo. Le massacre du client de 15h, c'est de l'hémorragie. Gas Mask Terror, c'est l'Emo du terroir. Yatai, Emo Get. Et ensuite, il y a une soirée Emo Hip-Hop avec les DJ Miss France, DJ Hyacinthe et DJ Dancefloor. Voilà, du sport, je peux te dire que tout à l'heure, tu vas coller à l'antenne, ça va être l'horreur. Et je disais, il n'y a pas de lumière. Bientôt, on va faire la radio à la bougie. Ça me rappellera l'époque où, oui, en 93, c'était comme ça au bout d'un moment à l'avenue des Minimes.
On va s'éclairer à la lumière antenne, ouais.
Heureusement qu'elle est cette lampe. Du sport à une revue de presse, mais le temps qu'il s'installe, je crois qu'il va le faire pendant son émission. Et puis à côté de cela, Thomas, lui, va parler, je crois, d'un petit film indépendant.
Ouais, sortie technique.
Ouais. Sortie technique, on verra ça tout à l'heure. Mais de suite, on va entamer avec les bandes dessinées. Et là, je peux vous dire, je vous ai quand même gâté, il y a 5 BD cette semaine. Écoutez le supplément week-end, nous, il est midi et 12 minutes hein, sur FMR. We'll be right back. Shigeru Sugiura, je vais y arriver. Oui. 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 Doron Chibimaru, le petit ninja, ça vient de sortir aux éditions IMHO. Shibimaru est devenu un maître ninja grâce à l'enseignement du sein du mont Spiral. Il se déplace en soucoupe volante dans un éléphant mécanique ou en se transformant grâce à ses tours magiques. Avec ses jeunes amis, il combat les criminels qui, eux aussi, ont des astuces de ninja. Grâce à Doron Shibimaru, les innocents villageois et les gentils seigneurs n'ont rien à craindre des vilains drôles tels que Petit Ingu, le dieu Greugreux, Pup et ses complices Aubergine et Petit G. Avec un design très rond, très naïf, des poses exagérées, des personnages qui lancent à tout va leurs petites phrases dans une petite bulle, des cases carrées bien propettes, une galerie fantasy, nous voici dans un univers naïf, à fond, enfantin et nostalgique. Mais à m'écouter comme ça, vous auriez du mal à imaginer quel univers graphique Shigeru Sugiura a réussi à créer. Pour les Européens, disons qu'on est proche des illustrés pour enfants de l'entre-deux-guerres, genre les aventures de Topor, CP des Hannetons. Non, vous connaissez pas, vous? Topor...
Si, c'est un mec connu, ouais.
Non, Topor, CP des Hannetons.
Roland Topor.
Non, Topor, c'est l'épée des Hannetons, une BD des années 20. Ah, vous connaissez pas Hergé, il a fait Tintin après une bouse dans laquelle il s'est enfermé. Ou encore Félix the Cat et Mickey Mouse, bien sûr, les strips des années 20, 30, 40. Une envie d'une bande dessinée enfantine, rigolote, naïve et inventive qui a toujours été dans les envies des graphistes brillants comme Craig Conlan, Harry Murray chez Slable Concrete ou Michel Prius et Charlie Schlingo pour Canetor le Caneton qui était sorti chez les Roquins Marteaux. Doron Shibimaru est le premier manga traduit en français de Shigeru Sugiura, un mangaka très connu au Japon, né en 1908 et décédé en 2002. D'abord peintre, il s'est mis à dessiner des mangas en 1933 pour des raisons alimentaires. D'un style naïf et poétique, il connaîtra le succès à partir des années 50, où sa production explose principalement pour la presse shonen, la presse pour enfants. Pour petits garçons, plus exactement. Il adaptera un monstre sacré du cinéma, lui aussi apparu à la même époque, Godzilla, hein, en français. Et sa série la plus connue, c'est Sarutobi Sasusaka. C'est l'histoire d'un agent secret stupide, un peu dans la lignée de ce qui s'est créé en même temps pour une série américaine. Shigeru Sugiura est considéré comme l'un des parents de la manga moderne aux côtés d'Osamu Tezuka. Les petits-enfants liront Doron, Shibimaru, le petit ninja, de leurs grands yeux éblouis et émerveillés. Les autres grands-enfants vont sûrement s'y plonger sous quelques substances hallucinogènes. C'est prime sautier, rocambolesque, poétique, chez le dit souhait. Je sais, c'est pas évident comme ça de rentrer dans le graphisme, mais pourtant c'est vraiment très agréable. Shigeru Sugiura, Doron Shibimaru, le petit ninja, ça vient d'être traduit en français aux éditions IMHO. Ça s'appelle une erreur de zap, ben voilà. Ça m'apprendra à le faire à l'aveugle, et une de plus. Wolfman au scénario, Georges Pérez au dessin, c'est peut-être des noms qui, à du sport, vont dire quelque chose. Ça vient de sortir dans les archives DC, Teen Titans, 1981-1982, c'est le deuxième volume consacré à la série. C'est dans la collection DC Comics chez Panini Comics. Et oui, les super-héros ont eux aussi commencent jeunes et parfois font leur TP de lutte contre le crime en petits groupes, ce qui leur attire des ennemis à leur mesure, comme le marionnettiste ou le Terminator et la terrible Madame Rouge. Dans l'équipe des Teen Titans, si vous suivez le dessin animé qui passe le dimanche matin dans F3X, vous y retrouverez Changelin, Robin, Cyborg et Raven. Robin d'ailleurs, c'est attention, hein, c'est le sidekick de Batman. Sauf que dans cette...
Si j'avais su, je t'aurais ramené les jouets.
Sauf que dans cette BD, ils n'ont pas 16 ans, mais apparemment bien plus 22, voire 25, voire 28. Ils sont en plus accompagnés de Kid Flash, le même que Flash, en plus jeune. Starfire, une extraterrestre qui a des pouvoirs super bourrins. Et Wonder Girl, sœur d'adoption de Wonder Woman. Ça fait du people dans ce groupe de crossover, hein, si vous comptez bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça fait du monde à gérer.
Ouais, ouais, mais ça c'est dans la BD, hein, parce que bon, justement dans la série animée, ils sont quatre, hein,
non, mais
quatre principaux.
Ils ont réduit dans le comics aussi, hein, par la suite. Hein, il a fallu écrémer, c'était pas très logique.
Bah oui, bah c'est normal. Hein, il faut que les gens puissent comprendre. Hein. Quand il y a trop de personnages, c'est compliqué.
Revenons en 1980. Cette équipe d'ados, les Teen Titans, était complètement moribonde dans les ventes. Face aux X-Men de l'éditeur rival Marvel, DC était en panne sur ce groupe et avait déjà tenté de relancer deux fois ce titre sans succès. Le scénariste Marv Wolfman et le dessinateur George Pérez, transfuge de la Marvel, vont justement appliquer les recettes de la House of Ideas, c'est-à-dire donner corps aux super-héros en rajoutant des éléments de vie privée, des peines de cœur, bref, du voici, du gala, tout en alliant les intrigues de qualité made in DC Comics.
Bah, c'était surtout aussi pour élargir un petit peu quoi le public, quoi, à savoir que au bout d'un moment ils se rendaient compte que ça n'intéressait que les fans de comics et que donc c'était un petit peu le serpent qui se mordait la queue, et donc ils se sont dit on va faire des super-héros plus humains auxquels le Pékin moyen de tous les jours va pouvoir s'identifier plus facilement par rapport aux super-héros qui étaient complètement immortels.
C'était initié, bien évidemment, ça c'est une oreillette en fer. C'est Madame Rouge, là, qui appelle. Ça a évidemment été initié chez Marvel, ce que j'avais dit, et aussi, il y avait un certain Frank Miller qui était en train d'en rajouter derrière. DC confiera plus tard aux auteurs le projet Crisis on Infinite Earth, jouant dans tout le multivers du panthéon de l'éditeur. Tout ça parce que justement, Titans, dans ce volume, a obtenu un succès critique et public. La mini-série était à l'origine prévue en 6 épisodes et s'étalera en plus d'une vingtaine. À propos de Panthéon, justement, dans ce second volume, Wolfman met les Teen Titans face aux titans de la mythologie grecque. C'est proprement jouissif. Graphiquement, outre les références graphiques évidentes à Jack Kirby, on sent aussi du Lon Sloan de Philippe Druyer. Les bleuettes de cœur, les rancunes des personnages se marient très bien avec les intrigues. Par contre, les costumes flashy et les coupes disco ont très mal vieilli. Néanmoins, dans cette œuvre d'archéologie super-héroïque, on se plaît à replonger dans ces lectures de jeunesse. Marv Wolfman au scénario, George Pérez au dessin, Archive DC, c'est le nom de la compilation, Teen Titans, année 80-82, c'est chez DC Comics, Panini Comics. Bah voilà, Thomas il a fini juste à temps pour que je commence la chronique. Becca, c'est un duo de scénaristes toulousains, donc attention à ce que je veux dire à l'antenne. Et Sev c'est le dessinateur, les Foot Maniacs. Le tome 5 vient de sortir chez Bambou Édition. Au football, qu'est-ce qui caractérise un très bon joueur de foot? Ah, le fait qu'il sache tacler le joueur adverse en douceur, c'est-à-dire sans se faire voir de l'arbitre, et qu'il a une fiancée mannequin internationale. C'est donc sur ces critères que l'entraîneur du FC Palajoie va donc chercher son nouvel attaquant pour la prochaine saison. L'idée étant de gagner les championnats de 4e division départementale pour se hisser directement en 2e, voire en 1ère ligue. Le quotidien du FC Palajoie est plus orienté business, râle et pâquerette et blagues sexistes. Et oui, c'est ça le football. 2 fois 45 minutes à supporter les blagues de Thierry Roland ou de Jean-Michel Larquet, entrecoupé de spots de pub d'un montant effarant. Les commentaires de rugby sur France 2 sont nettement plus drôles. Contrairement aux rugbymen, des mêmes scénaristes, où les équipes voient uniquement dans le match du week-end l'envie de faire la fête, voire de cogner sur les autres, c'est nettement plus drôle. Les foot maniaques, dans leur obsession de championnat, sont nettement moins drôles, beaucoup plus pathétiques. Bref, une BD vaguement rigolote, aux blagues pas franchement neuves, mais c'est toujours mieux qu'un Toulouse-Bordeaux ce soir, alors qu'il pleut comme vache qui pisse. Hein ? Non, Thomas, non. BK au scénario, Sev au dessin, les Footmaniacs tome 5 chez Bambou Édition, et je donne la parole à la Défense.
Bah oui, enfin moi je vais pas aller au match finalement parce que j'ai pas trouvé d'amis pour aller le voir avec moi.
Ouais, non mais c'est voilà, c'est, on se fait pas d'amis au foot.
Non, on se fait pas d'amis qui aiment le foot.
Oui, à peu près. Enfin en tout cas pas sur Toulouse.
Non non, c'est beaucoup plus de gens qui aiment le rugby plutôt que le foot, mais bon ça. Bah non, mais en fait, je l'ai lu tout à l'heure là pendant que tu commençais à faire ta chronique BD. Oui, bon, faut quand même apprécier le être dans le monde du foot quand même pour parce qu'il y a des termes techniques. Et ça s'adresse plus à des amateurs de foot. Hein. Par exemple, pour toi, je pense que tu as moins ri que moi. Voilà.
Ben oui, mais tu vois, je suis pas franchement amateur de rugby et pourtant j'ai explosé de rire dans les rugbymen. C'est énorme. Je crois que du sport est d'accord avec moi.
Oui.
Ça c'est du commentaire technique comme j'aimerais en entendre plus souvent, vous savez, dans les émissions en plateau style Stade 2 ou Téléfoot où on refait le match.
Oui. Ouais, mais ce qui manque c'est l'image quand même.
C'est clair. Ouais, ce stade ils peuvent faire que de la radio. Les Footmaniacs tome 5 de BK et Sev, c'est chez Bambou Édition. Le repos de la baleine, c'est un one-shot de Zun Jian, original, édité par Chiao Pan. Pour le spectacle scolaire auquel il participe, Chiao Kui, le héros, achète dans un magasin d'occasion un disque intitulé « Le repos de la baleine », qu'il paie relativement cher. Torturé par sa maladie, hanté par le prix du disque et le fait qu'il l'ait acheté dans le but de bien se faire voir d'une camarade, Chiao Kui bascule dans la réalité, de la réalité vers un univers onirique. Sa mère a disparu et il entrevoit une forme d'écaille, comme le costume qu'il revêt pour les répétitions. La ville est submergée par l'eau, où des hommes-poissons sautent hors de la flotte pour discuter avec lui, et ses camarades qui sont métamorphosés pour plonger dans l'immensité liquide. Kui, qui par sa maladie cherchait à être seul, va d'un coup subir une immense solitude, perdu dans ce monde qui lui échappe. Où est encore la vie ? Et quel est le chemin qui mène trop vite à la mort ? Le voici perdu dans une immense métaphore. Encore une fois, les éditions Chiao Pan nous font découvrir un auteur étonnant. Après Benjamin et Gigi, qui s'illustraient à la tablette graphique, Zhu Jian sort les pinceaux et tisse son conte cruel de superbes couleurs à l'aquarelle. Cette histoire complète n'a pas été publiée en Chine, trop déprimante ou indirectement critique envers la politique de son pays. On sent qu'une génération d'artistes est à la recherche d'air frais, perdue dans une idéologie qu'on leur inculte qui ne signifie plus rien. Les Chinois se métamorphosent, mais ne seront toujours exploités par des hommes du passé, ceux qui veulent bien causer du communisme quand il s'agit d'écraser l'individu. Zhu Jian, le repos de la baleine, ça vient de sortir chez Chiao Pan. Et c'est un one shot. Jean-David Morvan au scénario, Bruno Bessadi au dessin, Zorn et Dina. Le tome 4 vient de sortir, il s'appelle Famille décomposée, c'est chez Soleil Levant. Zorn et Dina sont deux enfants de 6-8 ans qui peuvent supprimer définitivement l'âme d'un homme ou d'un animal en le touchant simultanément. c'est un don extrêmement précieux, en ces temps troublés où la mort ne fait plus son office. Et pour cause, elle a été vaincue, emprisonnée dans un miroir pour satisfaire les caprices d'un roi qui voulait devenir immortel. En attendant, les blessures restent béantes, les corps décharnés, les os parfois vifs, mais les âmes habitent toujours les enveloppes charnelles dans tous les royaumes. Sauf si on coupe la tête, dans ce cas-là, l'âme pourrait se réfugier chez son assassin. Oui, c'est une petite variation vis-à-vis de Highlander. Deux enfants aux dons précieux, mais poursuivis par des guerriers sanguinaires. Heureusement que les parents savent manier l'épée comme Celnor, ancien mercenaire, et que sa mère s'est en fait décapitée, elle a désormais un corps de barbare impressionnant. Ça va, vous suivez ? Alors, Alors sauront-ils réchapper aux sbires lancés à leurs trousses par un prince décrépit ? Ce dernier arrivera-t-il à renverser son père ? Après un scénario très original, Morvan peut aussi être très content d'avoir trouvé un dessinateur aussi précis que Bûcher, l'auteur de Sillage, en Bessadi. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand il y a marqué Sillage dessus en sticker et quand on regarde le dessin, on se dit c'est le même. Le problème, c'est qu'il y a des viscères, de la barbaque partout, et je vous parle pas des flots d'hémoglobines. Avec deux gosses en héros, on s'attend à quelque chose de mignon, pas des moignons partout avec des plaies béantes. L'idée est géniale, et faut de l'estomac pour l'apprécier. Ouais, il y a 16 pages de clin d'œil à la fin par plein de dessinateurs.
Ah, mais celui-là, il ressemble au géant dans les chasseurs de dragons, là.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Ah, mais c'est un dessin animé, c'est normal.
Ah oui. Ah, je demanderai à Sabrina, alors entre.
Zornedina, tome 4, famille décomposée, de Jean-David Morvan, Bruno Bessadi au dessin. Et aux couleurs, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté. C'est dans la collection Soleil Levant.
Oui. Aux couleurs, c'est Christian Lerolle.
Merci beaucoup. Il y a la régie publicitaire qui me dit qu'en guise de publicité, on va passer du Duran, bande d'enfoirés. Enfin, plus exactement, c'est une reprise de Duran pour la collection Nouvelle Vague. qu'on s'est fait avoir par la coupure pub, là, les gars.
Ouais, c'est toi qui gères, c'est toi qui l'as contrôlé. C'est ta faute.
Donc en fait oui, effectivement, c'est David Bowie, c'est Duran Duran qui l'a repris. C'est donc une double album collection autour de Nouvelle Vague, puisque ça avait bien marché. L'industrie musicale se renouvelle, hein, c'est bien connu. Thomas. Ah oui, excuse-moi.
Oui, c'est moi.
Toi, tu attends autre chose.
Mon
toi.
Jingle. Enfin, le jingle cinéma.
Les sorties à l'Utopia vous sont commentées par Thomas en Dolby Mono Surround.
Et tu pourras passer le jiggle, il faut que je fasse une vidéo dessus.
Je te le passerai.
Bon, on va parler d'un petit film, ouais, avec un réalisateur débutant et un casting de jeunes premiers. Donc, Pirates des Caraïbes 3, jusqu'au bout du monde. Troisième abordage réalisé par Gore Verbinski avec Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom, Sean Fat, ouais.
Et le reste ils sont foutés.
Afin de réunir la guilde des pirates pour lutter contre l'Empire, Elizabeth Swann et William Turner doivent récupérer Jack Sparrow, perdu aux limites du monde suite à son duel avec le Kraken à la fin du deuxième tome.
Je croyais que Jack Sparrow, il avait pris sa retraite à la fin de la tome 5 de...
Non, c'est Bauer. Non, il n'avait pas pris sa retraite. Il a été capturé par les Chinois.
Bon, non, non, je parlais d'Alias. Jack Sparrow.
Non, c'est Jack Bristow.
C'est Bristow.
Non, en,
Bristow,
en plus, ouais. Il crève à la fin de... Alias, il prend pas sa retraite. Donc, on a spoilé deux séries, là. C'est voilà.
J'adore.
Mais voilà, donc, ils veulent récupérer Jack Sparrow. Mais l'ennemi devient chaque jour plus fort, car, entre-temps, il y a David Jones, l'espèce de gars à forme de poulpe, qui a rejoint l'armada de l'Empire. Alors, c'est un film, faut savoir, qui fait 2h50. Et je me suis fait chier grave. Parce qu'en fait... Si. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il est super mal foutu au niveau du rythme. Ça part vachement bien avec une intro morbide et tout. Ça te prend bien dans l'ambiance et tout. Puis après, c'est un gros moment de parlotte, gros moment d'action. Mais quand c'est de l'action, c'est du numérique de partout. Ouais, des monstres de partout et tout. Après, moment d'accalmie. Et à la fin, gros truc numérique d'une demi-heure. Alors voilà, tu t'as partagé entre non, arrêter avec le numérique et arrêter avec les parlottes. Alors tu à chaque fois tu essaies, tu sais pas sur quel pied danser. Heureusement, il y a un truc qui sauve le film, c'est Jack Sparrow, parce que je crois que le personnage, c'est vraiment une des meilleures inventions du cinéma de popcorn récent. C'est bien simple, chaque fois qu'il est à l'écran, tu ris, soit tu es rêvé de ta torpeur, parce que comme c'est un personnage bigger than life, en fait, à la mise en scène qui suit. C'est-à-dire que son apparition dans un film, par exemple, comme il est perdu aux confins de l'univers, il est dans un désert avec une lumière vachement blanche, et la première image qu'on le voit, c'est un gros plan sous ses narines en train de renifler une cacahuète. C'est assez rigolo, et il y a plein d'idées surréalistes qu'on n'aurait pas renié d'Ali, par exemple, comment un bateau peut se déplacer sur du sable avec beaucoup de crabes. Là c'est irracontable, mais je vous jure qu'au cinéma le film est parti sur de bonnes bases, quoi. Et bon, après faut dire que le reste du casting, alors nous on est des fans absolus de Sean Fat avec du sport, donc dès qu'on a vu les premières images avec le Sean Fat qui pose en pirate et tout, ouais, ça va le faire dans le 3. Sean Fat apparaît, alors tu te dis bon, déjà c'est bon. Moi j'ai vu en VF, c'est quoi cette VF? et en fait chaque truc qu'il dit c'est de l'impro ou voilà, et donc comme il y avait aucune critique qui avait vu le film avant, il dit ouais, ils sont fans de partout et tout.
Ah oui, parce que il faut que ça fasse une sortie mondiale en même temps, et qu'il faut pas qu'il soit piraté.
Oui, et puis ils sont
un film de pirate, il faut pas qu'il soit piraté.
Oui, d'accord, merci Xavier. Et alors, je note, jeu de mots.
Elle est pas de moi, elle est de la MPA.
Voilà, jeu de mots avec piraté. Voilà, et donc Sean Fat disparaît au bout d'un quart d'heure. Youpi. Et en fait, il aura passé son temps à plisser les yeux pour faire nerveux et pour faire pirate. Je sais pas si je suis gentil ou méchant. Et voilà, donc Sean Fat, grosse déception. Il y a quoi? Il y a l'élément féminin du film. Je pense là, c'est les deux. Il y a deux femmes dans le film. Il y a Keira Knightley, la planche à pain. alors son jeu d'acteur, c'est son jeu d'actrice. Elle entre-ouvre les lèvres pour faire sensuel et elle lève le menton pour dire je suis la chef. Donc ça, c'est des expressions d'actrices. Alors tu te dis, elle est chiante celle-là. T'as Orlando Bloom, là le rôle, il est assez particulier parce qu'il apparaît vraiment antipathique dans le film. Tu sais pas trop sur quel bord il est. Le film de toute façon, c'est un torrent de personnages qui s'échangent, qui changent de bateau. Tiens, évidemment, je vais passer du côté des méchants parce que chacun a une idée derrière la tête pour un but précis à essayer d'aller récupérer. Alors des fois c'est un trésor, récupérer, délivrer le papa ou voilà. Et alors en fait, c'est à un moment donné, c'est vraiment du n'importe quoi. Tu sais plus exactement quelles sont les motivations. Ça aurait pu être un intérêt puisque chacun roule pour sa pomme. Mais en fait, c'est pas vraiment exploité, je trouve, et c'est un peu dommage. Après, évidemment, il y a le torrent d'effets spéciaux au final. C'est bien foutu, on est en 2007, bon, tu t'en prends plein les mirettes, mais trop c'est trop, quoi. Ça dure une demi-heure, tu dis, oh non, arrêtez, c'est pas encore fini ce truc. Voilà, il y a trop de trucs.
Et attention, on a encore du budget.
Voilà, exactement. Parce que, bon, il y avait le mythe du Kraken dans le deuxième film, il y a un autre mythe dans le 3 qui est pas vraiment exploité, mais ça, voilà, ils ont dit, tiens, ce mythe-là, on va faire 7 effets spéciaux. Ouais, ILM. Voilà. Bon. Pirates des Caraïbes 3, franchement, moi, s'il n'y avait pas eu le personnage de Johnny Depp, c'était vraiment un truc qui coule.
Alors, jeu de mots sur couler.
Voilà, pirate, couler, voilà, tout couler. Et sinon, il y a une grosse idée, à un moment donné, qui est vraiment réjouissante. C'est, vous êtes jamais, tu l'as vu, toi, du sport, le 2?
Non, non, non.
En fait, le 2, c'est le David Jones qui sort de l'eau, en fait, avec un bateau qui ruisselant, parce que c'est un bateau fantôme pirate. Et là, on voit comment un bateau arrive à sortir de l'eau et dépasser l'horizon, mais vu de l'intérieur. Et il y a une grosse explication pourquoi il fait ça, et c'est vraiment, je trouve, c'est la une grande séquence du film, quoi. Bon, voilà, il y a des bonnes séquences, mais c'est trop long, et franchement, je me suis fait chier, mais je pense que, bon, il faudra essayer d'aller voir, peut-être que vous penserez différemment. Donc, Pirates des Caraïbes 3 de Gore Verbinski, et c'est, évidemment, ça passe pas à l'Utopia, ça passe dans tous les gros cinémas, c'est impossible à louper, et des fois, il y a beaucoup de salles dans le même cinéma qui le diffusent. Donc,
l'Utopia n'est pas une salle de cinéma, voilà. Bon, bah,
c'est dit. Une grosse salle.
Du sport, lui, s'en jette un derrière le gosier et va nous parler de quelque chose de beaucoup, beaucoup moins drôle.
Absolument, ouais, bah, je vais vous parler de Zodiac. Alors, le film est sorti,
avec Francis Huster, c'est ça?
Non, pas ça.
D'accord.
Pas ça.
Il y a eu au moins 15 personnes qui m'ont dit ça, avant. Oh, j'allais voir Zodiac. Oh.
Non. Et tu sais que d'ailleurs, que cette série, avec Francis Huster a tellement bien marché, c'est-à-dire l'histoire a tellement bien marché que des télés étrangères vont l'adapter. Donc, vont le tourner une télé italienne, entre autres. Donc, mais sans Francis Huster.
Ah, ils vont refaire la série, en fait.
Ouais, la série.
Adapté pour l'Italie.
Oui, oui, oui. L'histoire comme nous. Zodiac, la série française.
Ouais, comme nous, on a fait pour R.I.S., qui est une adaptation.
Sur les experts.
Non. Qui est une licence d'un truc italien qui a été pompé sur les experts. Voilà. Et nous, on a fait la même chose, on a pompé sur une série américaine.
Voilà.
Et ça va s'appeler Zodiac, l'étranger?
Je sais pas.
Ça va s'appeler Zodiaco.
Ok, là, il s'agit quand même du film de David Fincher. Alors moi, David Fincher, tous les films que j'ai vus de lui, je trouve qu'ils sont cartons. Hein. Bon, il y a Seven, qui est le plus connu. Il y a
Fight Club.
Évident. J'ai pas vu Panic Room. Bon, dommage, mais enfin bon.
Hey, énorme.
C'est les avis sont assez controversés là-dessus, quoi. Moi, mais en tout cas, bon, on l'attendait en tournant, hein, le père Fincher, parce que bon, dans le monde mouvant du cinéma à Hollywood, il faut savoir que c'est quand même un des top réalisateurs. Fincher, c'est le mec bien culte. C'est le type qui n'a jamais fait de flop au cinéma, en plus. Hein, tous ses films. Bon, rapporter du pognon, hein, un petit peu, beaucoup, pas mal. Et c'est un type qui prend également le temps de développer des scénaristes, c'est-à-dire qu'il a plus l'urgence maintenant de se dire, ok, il faut que je fasse un film par an, un film tous les deux ans, histoire de ramasser plein de pognon et puis d'être à l'aise. Non, pas du tout, il prend son temps, tranquille, se choisit plus ou moins ses scénarios. On l'avait vu, d'ailleurs, il était pressenti pour faire le Dahlia Noir à un moment. Bon, ça s'est pas fait, c'est l'autre qui l'a fait.
Hein, l'autre, ouais.
Bon, on se demande ce que ça aurait pu donner. Mais bon, qu'on n'est pas perdant au change avec son adaptation de Zodiac. En plus, le film est sorti à Cannes et en même temps dans les salles. Alors ça se généralise de plus en plus. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne chose, parce qu'il fallait voir le monde qu'il y avait lors du premier jour, hein, c'est-à-dire la journée avant la présentation officielle à Cannes. puisque le film était diffusé à Cannes à 21h, je crois. Hein, c'était le film de prime time, alors qu'on avait pu le voir depuis 11h le matin dans toutes les salles de France, en version française ou en version originale. Choisissez la version originale, ça c'est le conseil que je vous donnerai encore à la fin à propos de ce film. Ça parle de quoi ? Eh bien, ça parle d'un des serial killers pas trop connu. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que c'est un mec qu'on n'a jamais arrêté, on n'a jamais pu savoir exactement qui il était, bien qu'il y ait eu des soupçons et bien qu'il y ait eu des enquêtes menées qui arrivaient vraiment à cerner deux suspects majeurs quand même dans cette histoire, dans le film, et bien qui dure quand même 2h36. Alors 2h36, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, le bouquin de Robert Graysmith, le film est tiré et scénarisé d'après le livre de Robert Graysmith qui est sorti en 85 ou en 86 en version anglaise, puis en 87, 88 en version française, qui a été réécrit, c'est-à-dire il y a eu des rajouts qui ont été faits, une autre édition était est sortie dans les années 90 parce qu'il y a eu quelques petits éléments nouveaux qui sont venus s'ajouter, dont la mort du suspect principal. C'est-à-dire, si vous voyez le film, vous verrez, c'est marqué. Alors le film, comment il se passe ? Eh bien, le film se passe de la même manière que le bouquin de Robert Graysmith qui s'appelle « Les crimes du Zodiac ». C'est-à-dire que Graysmith a écrit son bouquin en étant dessinateur du journal Le San Francisco Chronicle, qui a reçu les premiers messages cryptés du Zodiac, car le Zodiac, après avoir tué, à chaque fois, eh bien, il téléphonait à un poste de police relativement près de l'endroit où avaient lieu les meurtres, et disait, oui, allô, vous avez trouvé deux personnes, trois personnes mortes à tel endroit, ils ont été descendus par telle arme, de telle manière, a bien démontré que c'était bien le tueur qui téléphonait, hein, attention. Et donc, on commence de façon tout à fait chronologique par le premier meurtre, enfin le premier meurtre avéré par le Zodiac. Par la suite dans l'histoire, et bien on apprendra qu'il n'avait pas commencé lors de ce premier meurtre, mais qu'il s'en était déjà tapé quelques auparavant, mais qu'il n'avait pas encore affiné sa technique, si on peut parler ainsi. Et tout le film, les 2h36, eh bien, se suivent de la même manière. Hein. C'est un petit peu la même chose que dans les séries télévisées genre New York District, où t'as les planches, où t'as les sous-titres avec la date, l'heure, l'endroit. Et puis, il n'y a pas de voix off dans ce cas-là. Mais on peut dire que le rythme du film et la manière dont sont amenés les différents éléments tels qu'on peut les lire dans le bouquin est tel que on n'a pas besoin de voix off du tout. Et là, c'est vraiment très très bien parce que même si le bouquin et le film avancent à un rythme très très lent, parce que il faut savoir que les premiers crimes du Zodiac remontent à 66, mais le premier pour lequel l'histoire commence du Zodiac, c'est 69, et il va y avoir des périodes où il va descendre quelques couples ou des personnes isolées, il va s'arrêter pendant 2-3 ans, puis il va recommencer, je suis de nouveau là les gars, pour narguer la police, parce qu'il y a également l'espèce de combat que se livrent bien entendu les services de police et le Zodiac qui est là et qui nargue à fond les manettes, genre oui, et puis il cite le nom de l'inspecteur principal, et ce porc, il appelle les flics des porcs en version originale, pigs quoi, hein, c'était le terme vachement employé dans les années 60 et dans les années 70 par les contestataires américains pour désigner les flics, nous on dit flics, eux ils disaient pigs, tout simplement à la place de dire qui était un terme plus grave par rapport au terme copper, le flic anglo-saxon.
Et donc c'est entre deux meurtres, en fait il pouvait se passer plusieurs années.
Non, c'est-à-dire qu'il y a eu des phases où il a tué à un rythme relativement régulier. Alors on a cherché à rattacher ça à un moment, on le voit un petit peu, pas trop dans le film, mais dans le bouquin, ils ont cherché à rattacher, le Robert Graysmith a cherché à rattacher ça à des dates par rapport à l'influence de la lune ou du soleil, si tu veux, les dates par rapport au solstice, aux lunes pleines, aux lunes demi-pleines, et des petites choses comme ça pour voir s'il y avait un sens caché en plus, parce que bon, faut dire que quand on voit les cryptogrammes, on peut se dire que c'est quand même assez coton au départ, bien que on apprend dans le livre et dans le film que il s'est inspiré, en fait il a tout simplement pris, comme c'était un personnage relativement cultivé, le Zodiac, il a pris 2-3 bouquins de cryptologie, il avait fait les deux suspects connus avaient fait des études de cryptologie dans la marine, ça peut aider, et oui, donc pour composer des petits codes quand même relativement en coton. Alors le film est très très bien en cela qu'il est On a parlé de documentaire, mais enfin c'est pas vraiment un documentaire, c'est un film vraiment super bien foutu, bien produit. On connaît le sens du détail de David Fincher, alors c'est vraiment comme si tu y étais, hein, avec les bagnoles, le décor, les petits éléments, les accessoires sur les bureaux, tout n'importe où, c'est vraiment rendu au maximum de l'authentique. C'est là que c'est très très bien. Les acteurs n'en font pas trop, si Robert Downey comme d'habitude, mais enfin c'est pour ça qu'on l'adore, hein, de toute façon. Robert Downey n'est pas le personnage principal du film. Le personnage principal du film, c'est Robert Graysmith, hein, savoir interprété par Jake Gyllenhaal, qui là, signe une prestation tout à fait convaincante. Hein, ça, y a pas de problème. Bon, sa femme en face, Chloé Sevigny, c'est vraiment un rôle de faire valoir. Les femmes dans ce film, de toute façon, n'ont qu'un rôle de faire valoir. Soit elles se font dégommer ou pratiquement pas dégommer, soit c'est les femmes qui sont délaissées. La femme de l'inspecteur principal Toshi, la femme de Robert Graysmith, lors de leur premier rendez-vous et tout, ils réussissent à se tirer et tout. Attends, j'ai un petit truc à faire et tout, j'ai un coup de fil à donner. Enfin, tu vois le genre. Tout ça est très très bien rendu quand même. Hein. Grosse performance de Mark Ruffalo qui joue le rôle de l'inspecteur principal. On en apprend un tout petit peu moins dans le film parce qu'on n'a pas le temps de détailler. Il y a quelques éléments qui sont passés sous silence, comme la grave maladie de Toshi, c'est-à-dire l'inspecteur principal à un moment donné. Mais c'est pas trop grave, hein. Le film se suffit à lui-même et c'est vraiment très très intéressant de redécouvrir toute une phase de l'histoire de la Californie, hein, parce que bon, bah, ça concernait pratiquement l'ensemble de la Californie, qui a beaucoup marqué, eh ben, les gens qui vivaient là-bas, hein, parce qu'il y a eu des crises de panique. Le gouverneur de Californie, quand Zodiac a commencé à déclarer qu'il allait certainement peut-être faire péter un bus avec des enfants dedans, et puis qu'il avait livré carrément des schémas de bombes qui permettraient de faire exploser le bus au passage du bus, enfin des petits trucs comme ça, quoi. Ils ont pris la chose très très au sérieux, ce qui fait que bon, en Californie, pendant un sacré bout de temps, eh bien, il y a eu la psychose, on ne sortait plus le soir, les bus étaient accompagnés par des motards, enfin bon, c'était vraiment la grosse psychose. Donc cette affaire a beaucoup marqué, et comme le disait Fincher, lui qui était jeune dans ses années 60, fin de ses années 60, bah, il a connu justement cette époque-là, cette espèce de psychose due au Zodiac. C'est pour ça que bon, bah, ici en Europe, en France, chez nous en particulier, on a peut-être, à moins de s'intéresser beaucoup à la criminalité, bah, passé plus de côté par rapport au Zodiac, mais c'est quand même une histoire qui est vraiment très très intéressante. Et dans le bouquin de Graysmith, en plus, ce qui est vachement très très bien, c'est que bon, bah, il y a absolument tous les cryptogrammes, tous les différents messages qu'il a écrits. Alors au départ, il écrit de sa main. On apprend qu'il est ambidextre, donc il cherche, il peut plus ou moins maquiller son écriture. Mais quand il revient en 78, parce que bon, il s'arrête en 74, on n'entend plus parler de lui jusqu'en 78-79. Il revient, là, il écrit plus à la main, il écrit à la machine. Enfin bon, parce qu'il a pigé qu'il y avait également un graphologue qui était sur le coup et la graphologie est un élément vachement important en plus, hein, dans ce film, donc ce qui fait que ce film qui est quand même relativement intéressant. Alors si vous cherchez à aller voir un film pour de l'action bourrin, pour des cascades en bagnole, des poursuites, des explosions et des gunfights, laissez tomber, c'est même pas la peine. Allez voir Pirates des Caraïbes, hein, c'est
Il y a pas de bagnole, mais il y a des
gunfights. Il y a des gunfights, ça sera plus le coup. Mais par contre, si vous cherchez à vous immerger dans une histoire, vaut mieux y aller et pas connaître l'histoire du tout, parce que je veux dire, le film suffira à comprendre l'ensemble de l'intrigue de toute façon. Et si vous cherchez encore à en savoir plus, eh bien il reste le bouquin de Graysmith qui s'appelle donc Les Crimes du Zodiac, dont on dit qu'il est mort, hein. C'est la version du film, en fait, hein. La version du film, c'est que le suspect principal est mort en 91, mais qu'ils avaient pas assez de preuves telles que le système de justice américain. Alors le film montre bien, c'est également écrit dans le livre, mais ça on le savait déjà depuis pas mal de temps, depuis qu'il y a des serial killers, en fait, hein, depuis Ted Bundy et beaucoup d'autres, c'est que du fait que le système politique américain est régi de telle manière à ce que ce sont différents États qui ont rien à voir les uns par rapport aux autres en tant que politique intérieure, hein, c'est uniquement pour la politique extérieure que les gens se réunissent au Sénat, au Congrès pour décider de petites choses à faire. Les collaborations entre les différentes polices, même d'un même État, hein, c'est-à-dire des polices des différents comtés à l'intérieur de l'État, eh bien les services de police ne collaboraient absolument pas les uns avec les autres, ce qui fait que un tueur pouvait très bien se permettre de simplement se déplacer d'un comté à l'autre et ne pas faire l'objet de poursuites vraiment très très recherché, très 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 poussé. Et c'est pour ça que pas mal de serial killers, en fait, Ted Bundy en, entre autres, ont pu sévir dans beaucoup d'États des Amériques, parce que une fois que ça commence à devenir chaud dans un État, ben on se tirait à côté, on allait un petit peu plus loin, et hop, on recommençait pratiquement une nouvelle vie. Et ça a été un petit peu le cas pour le Zodiac, quoique on ne saura peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé et qui est vraiment le Zodiac. Enfin, en tout cas, une histoire excellente, un film excellent à aller voir, 2h36 sans problème, mais en version originale, hein, parce que j'ai vraiment des doutes sur la version française.
On va passer une petite pause, comme ça on va demander à Stereo Total dans leur nouvel album s'ils ont du complexe Mindernsex.
Sur des événements réels. Les noms ont été changés afin de protéger les personnes innocentes.
C'était un mardi qui n'avait rien d'exceptionnel. À l'heure des premières patrouilles, un jeune garçon renversé en courant après son chien, une fugueuse de 8 ans avec son sac à dos voulait partir en Afrique. Plus sordide, un VRP faisait les vieilles dames dans les hospices. C'est le commissaire Giovanna qui allait apprécier. Puis, un accident tragique à Beverly Hills. Un mini-car retourné par un de ses fils à papa. 4 morts. La mondaine venait d'embarquer Lisa, une Allemande qui faisait le trottoir. Son client s'était cogné le front en dévalant un escalier. Attention à la marche. En parcourant mon journal, je n'y lis pas les chiens écrasés, ni les histoires de coucherie dans la jet set. À peine fini la pause café qu'on m'appelait pour une sordide histoire d'homicide. Une femme seule dans une grande baraque, raquetée par sale colocataire. Bilan, 7 morts dans la maison. Pas vraiment une famille en or, et tout ça pour même pas 1 million. Les interrogatoires allaient être longs, entre le droit de savoir et confessions intimes. Au Grace Hospital, un interne avait pris en otage un chirurgien du service. J'avais franchement hâte d'en finir avec cette journée. Le patron prenait sa retraite et je ne voulais pas manquer son pot de départ. Commissaire Le Breton, chef du plus grand commissariat du pays. Surtout pour ses amitiés politiques. Je m'appelle Disport et je suis critique.
Pile à l'heure, il est 13h, c'est Radio Éphémère 89.1 MHz. Encore deux petites choses hein, sur Zodiac. Hein, tout d'abord, c'est ce que j'avais plus ou moins dit, mais enfin bon, dans les ordres.
Le livre chez J'ai lu, donc.
Le livre, ouais, collection J'ai lu, hein, truc à pas cher, quoi. Mais je conseille plutôt d'aller voir le film qui est mieux foutu, parce que bon, il faut dire que Robert Graysmith n'est pas un écrivain, c'est un dessinateur. Donc, ce bouquin de Graysmith, tu lis, c'est comme un rapport de police, hein, grosso modo.
C'est un
modo,
dessinateur journaliste, hein, de toute façon.
Ouais, ouais, mais enfin bon, c'était pas pour son talent d'écriture. C'était pas pour son, pour sa plume, écriture, hein, plutôt pour des dessins. D'ailleurs, il y a le dessin qu'il a fait du Zodiac, là, son dessin original, quoi, tiens. On peut voir, pour voir un peu le style du mec, quoi. Enfin bon, non, en haut, là, ça, c'est le Zodiac. Lors du deuxième meurtre, il y a ça. Donc le bouquin, bon, il pousse le tartiner. Ok, faut vraiment être intéressé. Le film est vachement mieux. Hein, c'est vachement mieux. Et surtout aussi parce que bon bah il y a une bande sonore qui est vraiment très très bien. Beaucoup de morceaux de musique de l'époque, mais également une musique originale. Hein. Au départ, il devait y avoir que des morceaux de musique de l'époque, et puis bon, lors des séances pré-test, des projections pré-machin,
ouais,
ils ont trouvé que bon, bah, c'était quand même un petit peu light, quoi, donc ils ont rajouté quelques compos originales, et ça le fait vraiment très très bien. Hein, parce
et
que
les compos originales, tu te souviens de qui c'est?
David Shore, je crois.
Howard
Shore, voilà, il me bon, semble. Ouais, non, c'est du lourd, mais enfin bon, c'est pas lourd, quoi, c'est vraiment la musique originale dans le film, c'est pas lourd du tout, c'est vraiment ce qu'il faut quand il faut, pas plus. Très très léger, vraiment ça passe très très bien, voilà.
Si on parlait donc du départ de Lelé, c'était grand.
Oh.
20 ans de TF1 privatisé, le mieux disant culturel et tout ça, oh là là, c'est fou.
Et oui, mais attends, parce qu'il y a Moujotte aussi qui va se tirer là, tout doucement. Là, ils sont en train de restructurer, de mettre des nouvelles têtes comme ça en douce, tranquille, histoire de faire passer un petit peu plus la pilule. Non, avant de commencer de parler de télé et de programme en général, vite fait, ou pas vite fait, parce qu'il s'agit d'un nouveau, alors là c'est un trimestriel qui cause de séries, qui cause de télé, donc qui cause surtout de séries, et là où c'est plus intéressant, c'est que c'est présenté par Alain Carazé
qui collabore à Mad Movies,
qui collabore également à Mad Movie, qui était sur Canal Jimmy quand ils avaient une émission qui s'appelait Destination série
hein, oui, ça remonte,
qui bosse également avec Christophe Petit, toute la bande de l'excellent génération série Le Fanzine, défunt malheureusement. Et là, bon ben voilà, c'est un trimestriel, ça coûte 4,90, alors c'est quand même vachement cher. Alors à prime abord et tout, quand on a connu la précédente, parce que Carazé avait déjà fait du papier avec un magazine qui s'appelait Épisode, mais qui n'a pas duré longtemps, Épisode au pluriel, enfin Épisode, puis avec le S pluriel entre parenthèses. Ça n'avait pas duré longtemps, je crois qu'il y avait eu même pas une dizaine de numéros, les 4 premiers numéros normaux, puis après des numéros avec DVD histoire de faire monter la sauce, ça n'a jamais bien pris. Et maintenant ce qu'on a généralement, hein, là, les moins pourris, c'est quand même série TV, mais ce qu'on a généralement qui parle de programmes télé ou de séries télé, c'est quand même des espèces de trucs où t'as le poster de machin, de trucs, de bidules, genre ça fait vraiment teen magazine plus que magazine un petit peu sérieux. Là, ben, ça change carrément, mais alors vraiment carrément, hein, parce que bon, faut dire que les sujets traités dès le premier numéro, bon, ben c'est pas pour faire dans la dentelle et c'est pas pour faire plaisir à tout le monde et surtout pas aux chaînes françaises. Alors, au départ, quand on prend le magazine, qu'on l'achète 4,90, on se dit ok, on va en avoir pour son argent. Bon, ben déjà, la maquette est assez pourrie, faut dire ce qui est, hein, c'est pas bien, c'est un peu chiant, quoi.
Dans c'est limite de la lisibilité. Hein.
Ouais, dans l'épisode, au moins, ça avait un petit côté mise en page et tout qui était un petit peu accueillant. Là, ben non, pas du tout. Ils ont un petit peu loupé leur style. C'est un peu dommage. Mais par contre, au niveau du texte et au niveau du contenu, là, bon, ben on peut que s'incliner. Bon, ben laisse tomber, c'est pas la peine. À tel point que la critique de ce trimestriel dans le Technicard de ce mois-ci, c'est que bon, c'est un truc qui s'adresse uniquement aux gens qui connaissent déjà, quoi. Genre, si vous êtes grand public, laissez tomber. Par contre, les sujets qui sont traités sont vraiment très très bien. Tac, on va prendre carrément le truc avec tout d'abord, bon, bien sûr, des petites rubriques brèves et ensuite un gros truc sur les salauds à l'écran, bien entendu, avec Dr House, mais il y a également Dexter, dont je vous parlais un petit peu plus tard, qui est à l'affiche sur Canal, mais les grands salauds, genre Profit, JR et tout ça, enfin, tu vois, les vrais
attention,
mais qui étaient vraiment les personnages qui des fois sauvaient la série. Hein,
attention, hein, il y a JR qui débarque avec toute sa famille. Hein,
Alors là, bon, c'est vraiment pas un magazine pour les fans, tu vois, quoi, c'est plutôt pour les gens qui aiment un petit peu réfléchir quand même à propos. Ensuite, une bonne enquête sur les séries qui sont menacées par le téléchargement, hein, parce qu'il y a histoire de vidéo on demand et là ça commence à foutre un petit peu le bordel. Parce que pourquoi ça fout le bordel? Parce que eh bien c'est la différence de date au niveau des diffusions des séries, hein, ce qui fait que bon, quelqu'un qui actuellement qui veut avoir une série, qui veut voir une série américaine, par exemple Desperate Housewives, dont on n'a pas encore vu la série 3, ben on peut déjà se la taper parce que il suffit de la télécharger sur internet en vidéo on demande, même en payant, c'est-à-dire légalement, pour pouvoir voir la troisième saison, alors qu'il va falloir attendre encore quelques mois pour pouvoir la voir sur une chaîne française.
Il y a aussi des séries qui ont été sauvées, justement, par exemple, il y a eu Frequency, scénarisé par Garth Ennis, qui est resté au stade de pilote et qui s'est retrouvé, on ne sait comment, sur le net, et à tel point où le producteur s'est retrouvé le cul entre deux choses. Il a dit, bon, le piratage c'est pas bien, mais faites circuler le bruit, parce que peut-être que du coup la série va être produite. Donc c'est vrai que le téléchargement change énormément la donne, et le retard justement de diffusion par rapport aux États-Unis, c'est justement ce que fait Canal+, en se rapprochant de plus en plus des diffusions européennes, américaines, pardon.
Bon, alors il y a aussi un super gros dossier, quoi, sur la politique et les séries télé. Alors ça tombe à pic et tout.
Vous avez vu Boston Legal, l'épisode qu'ils ont. Il y a un épisode qui est passé il y a 15 jours où il y a eu un réquisitoire monstrueux contre Guantanamo.
Enfin, bon,
il y a Maître Eolas qui l'a traduit. Quand on lit la traduction, c'est hallucinant, c'est inimaginable en France.
C'est le genre de truc qu'on peut voir. On voit ce genre de polémique, hein, on voit ce genre de discours, ce genre d'échanges assez souvent dans les épisodes de New York District,
oui, tout
il y a
à
les
fait.
Échanges entre les juges, savoir quelle est l'éthique,
soit sur des lois, soit sur la politique de Bloomberg, le maire de New York et tout.
Oui, parce qu'il est également question de Guantanamo et puis de ce qui se passe. On sait que bon, ben plusieurs scénaristes et plusieurs producteurs mettent bien le point sur des éléments qui sont réellement arrivés. Là, c'est vraiment très très bien. C'est là où ils sont vachement en avance par rapport à nous. Ça, y a pas de problème. Hein. Il y a également un dossier des séries sur la télé, hein, qui parle de télé. Alors là, il y en a pas eu tellement, quoi, mais enfin bon, c'est à propos surtout de Studio 60, qui est actuellement diffusé sur TPS Star. Un dossier sur les adaptations, on en parlait avant, hein, pareil, entre Criminel, RIS et tout ce truc-là, où il y a un petit article sympa où on apprend que Ugly Betty, cette série colombienne, là, tu sais, l'histoire d'un homme qui est moche et tout, mais qui va quand même épouser le mec de ses rêves et tout, a été décliné quand même en 13 versions, c'est-à-dire il y a 13 pays différents qui ont fait un Ugly Betty, quoi, tu vois, ça fait quand même pas mal, quoi, pour des petites séries colombiennes comme ça, telenovela, hein, c'est quand même assez intéressant. Et il y a un article super, l'article c'est genre 3-4 pages, quoi, tu vois, c'est pas des petits articles, sur le doublage et la censure dans le doublage. Et là, ça fait très très mal. Alors très très mal.
C'est pour ça qu'il faut éviter absolument. Si vous avez la possibilité de voir des séries en VO, faites-le en VO.
Ouais, c'est impensable. Et alors bon, bah, les exemples sont évidents. Hein. Puis ça marche aussi, ça marche également pour les, c'est-à-dire il n'y a pas uniquement que le doublage, mais également les sous-titres. Hein. C'est le texte des sous-titres ou des fois, bon bah des gros mots et tout. Bon, il faut se dire aussi que nous on a de la chance, quoi. Il faut savoir que on peut voir certains programmes sur des chaînes non restrictives, on va dire, hein, sur des chaînes hertziennes et tout, pas sur des chaînes câblées. On peut voir des programmes qui sont quand même assez poussé par rapport aux chaînes hertziennes aux États-Unis. Aux États-Unis, sur une chaîne hertzienne, tu entendras jamais le mot fuck. C'est défendu. C'est
t'as sept mots qui sont interdits.
Les chaînes sur lesquelles passent The Shield, Soprano et Oz et toutes ces séries qui ont un petit peu décomplexé le langage, on va dire, hein, ben, ce sont les séries du câble, donc et qui passaient à des horaires vraiment spécifiques.
Et comme le câble, c'est pas de la ressource publique, et ben l'autorité de contrôle, la FCC, qui est à la fois le CSA, c'est-à-dire la gestion des programmes, mais aussi l'ART, l'autorité de régulation des fréquences et télécommunications. Ils peuvent rien dire. C'est le câble. Voilà. Donc il y a que les groupes de pression qui font pression sur les chaînes. Ça marche pas. Ça marche.
Alors il y a l'exemple qu'il faut que je vous lise quand même, quoi, au sujet des traductions. Et là, ça concerne des séries dans les années 80, hein, déjà dans Dynasty, quoi, l'histoire du mec qui est homosexuel, je crois, c'est dans la deuxième saison. Et en fait, la version anglaise est bon sans équivoque, hein, Steven is gay, et en français ça devient Steven est malade. Ou alors il y a un épisode aussi.
Oh putain, c'est le double sens là de la traduction est vraiment mauvais pour le traducteur.
Il y a un épisode de Starsky et Hutch qui s'appelle Double vie, en fait, quoi, et qui raconte l'histoire d'un flic homosexuel qui est un pote de Starsky, quoi, et alors, ou de Hutch, quoi, et Hutch déclare jusqu'à il y a 6 mois, elle venait dans cette chambre avec le même type. Récemment, il y en a eu d'autres, et dans la VF, on l'a vu pourtant pas mal, avec pas mal de filles dans cette chambre depuis un an. Il y a les témoins qu'on veut, et un petit peu plus loin, quoi, Starsky, quoi, qui annonce à la nana qui vient de perdre son mari qu'il était gay, quoi, en français. Il avait des faiblesses. C'est la version française. Enfin, des petits trucs comme ça, quoi. Et on apprend également que le titre d'un épisode du Prisonnier, qui s'appelait Le Général, eh bien, a été reprogrammé en Le Cerveau, parce qu'à l'époque, eh bien, ça aurait pu froisser une certaine personnalité assez grande qui portait le képi. Donc voilà tout ça. Donc cet article.
Bah, à l'époque c'était l'ORTF aussi.
Ouais. Non mais bon, ils vont quand même vachement loin. Et puis ensuite un petit truc sur Battlestar Galactica, ainsi que quelques conseils pour suivre quelques séries qui sont actuellement sur les écrans français. Mais il y a également un très bon truc sur qui s'appelle Télé d'ailleurs, qui nous propose eh bien des petites critiques à propos de programmes qu'on verra peut-être, mais qui sont diffusés un petit peu partout, quoi, en Angleterre, aux États-Unis. Alors il y en a des, j'en ai trouvé un qui est trop classe, quoi. C'est Little Mosquée on the Prairie.
Oui, ça va arriver en France.
Chaîne canadienne ou
chaîne publique canadienne. Et ça va arriver en France, ça va arriver sur Canal.
Ou alors Primeval, qui a l'air très intéressant, quoi, qui est diffusé par ITV au Royaume-Uni. Voilà tout ça donc dans épisodique. Et puis bon, je dis ça coûte cher, 4,90, mais comme on les dépense que tous les 3 mois, bon, ça revient un petit peu moins cher.
Je prends un coup d'œil. Merci.
Allez, vas-y. Ouais. Ensuite, on parlait du Zodiac. Alors, j'ai fait une petite recherche Google comme ça pour Zodiac, pour voir ce que ça donnait, quoi, pour chercher à repérer en fait les bandes, la bande son, quoi. J'ai pas trouvé, quoi, parce que bon, l'internet c'est de la merde, quoi.
Non, IMDb.
IMDb, laisse tomber, quoi. Alors, laisse tomber. Et tu tombes également sur Zodiac Aircraft System et sur Zodiac Marine, bien sûr. Hein. Faut pas les oublier. Il faut savoir que à la télé, il y aura une soirée Zodiac Killer demain soir sur Canal Jimmy. Alors, vu les fonds de tiroir dont dispose Canal Jimmy en ce moment, vu que la chaîne mère, ils ont plus ou moins laissé tomber, ils font avec ce qu'ils ont. Ce qui nous donne une soirée un petit peu light, quoi, qui commence par un film qui n'illustre absolument pas, mais absolument pas, la manière dont Zodiac opérait. Hein. C'est un film qui s'appelle Sanctimony de Uwe Boll de l'an 2000 avec Casper Van Diem. Alors le casting est béton, quoi, c'est dommage parce que bon, ça suit pas, quoi. Michael Paré, Eric Roberts, Jennifer Rubin et Catherine Oxenberg. qui est par ailleurs, enfin à l'époque c'était la meuf de Casper Van Diem, bien qu'elle lui rendait bien 25 ans, tranquille. Et ça raconte plutôt l'histoire d'un serial killer, mais à façon de American Psycho, tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec le tueur du Zodiac. C'est suivi par contre à 22h15, eh bien, du Zodiac Killer de Kevin McCarthy de 99, et qui est en fait un documentaire dans lequel l'écrivain Lawrence Block propose sa version, parce qu'il a également mené son enquête, et donc il propose sa version. Lawrence Block, c'est un écrivain de polar relativement connu, hein, les plus connus, le bouquin le plus connu, c'est celui qui a fait l'objet d'une adaptation. Il y a plusieurs bouquins qui ont fait l'objet d'une adaptation, mais le plus connu c'est 8 millions façons de mourir. 8 million ways to die, qui est traduit en français par 8 millions de morts en sursis, hein, le film avec Jeff Bridges et Rosanna Arquette dans les années 80. Et par contre, il est né à Buffalo en 38. Son premier roman, c'est pas du tout un polar parce qu'il a un petit peu touché à tout, c'est une histoire de lesbienne. Puis avant de commencer à écrire vraiment ses polars et ses bouquins d'espionnage, il a été nègre de Will Amard, un autre écrivain de série noire. Quelques polars plus tard, il a son premier héros qui va être un héros récurrent qui va utiliser pendant 7 bouquins, hein, qui un personnage complètement porte-nawak, parce que en fait il s'appelle Evan Michael Tanner, il est espion freelance. Mais sa fonction de sommeil a été altérée parce que pendant la guerre de Corée, il a reçu un éclat d'obus dans la tête et donc il dort plus. Donc il a deux fois plus de temps, il a pas besoin de se reposer, il est jamais fatigué, quoi. Donc il a une activité nocturne, une activité diurne sans problème, tu vois, quoi, puisqu'il a pas besoin de dormir. Alors bon, en plus comme ça il a le temps, quoi, justement, quoi, d'apprendre plein de choses. Donc il apprend plein de langues, il parle 10 langues. Il adhère à des associations contestataires, donc ça lui vaut d'être un petit peu surveillé par le FBI et par la CIA, et ça donne des histoires assez plaisantes d'espionnage, enfin bon, qui vont un petit peu partout. C'est assez plaisant à lire. Alors, en particulier, il y a, je vous donne les titres français, quoi, parce que c'est plus facile. Annuler le tchèque en 66, hein, en série noire. Il y a Haute Voltige en 68, beau doublé pour Tanner un petit peu plus tard. Où est-ce qu'elle est, la page de 1 bis, voilà, quoi. Après Tanner, il y a le vrai héros de Lawrence Block, celui qui est justement décrit, qui est interprété par Jeff Bridges dans le film, qui s'appelle Matt Scudder, qui est un ex-flic qui en fait joue le rôle d'un privé mais sans licence, c'est-à-dire il n'est pas officiel. Et en fait il donne plus ou moins des coups de main à des copains qui viennent le voir parce qu'ils ont j'ai la sœur de ma copine qui a disparu, tu veux pas voir ce que tu peux faire, et puis bon ça démarre toujours doucement, mais ça finit toujours en couille à fond les mallettes. Enfin bon, il faut dire que parallèlement à l'alcoolisme de l'écrivain, eh bien, on décrit également dans ses livres l'alcoolisme de Matt Scudder, qui d'ailleurs arrête de boire, hein, à un moment bien précis, hein, qui est le même moment auquel son écrivain arrête de boire. Lawrence Block, il a écrit en 76, donc 3 romans de Matt Scudder avec In the Midst of Death, The Sin of the Father et Tyron et Créon, c'est l'heure. Il s'arrête pendant 5 ans, puis il recommence en 81. Et là, il y a eu toute une tapée de Matt Scudder. Stab in the Dark, A Million Ways to Die, Le Blues des Alcoolos, Un Ticket pour la Morgue. Il y a eu un troisième héros récurrent, hein, qui s'appelle Gene Roddenberry, un ex-serrurier qui est devenu libraire et qui la nuit qui cambriole comme ça pour le plaisir des appartements, et forcément à force d'aller chez les gens, il tombe sur des trucs pas louches et puis il s'embarque dans des histoires pas possibles. Un de ses livres avec le héros Gene Roddenberry a été adapté au cinéma et ça a donné La Pivoleuse, avec Whoopi Goldberg dans le rôle principal, donc féminise, hein, donc féminise donc le personnage de Lawrence Block, voilà, qui est Lawrence Block et qui nous présente donc cette soirée et sa version donc du Zodiac Killer, une version qui a été enregistrée en 99. Tout ça c'est demain soir sur Canal Jimmy après Sanctimony de Uwe Boll à partir de 22h15. Sinon, eh ben, on avait du Dragnet avant, hein. On a fait du Dragnet. Alors bon, les crimes de Zodiac, c'est San Francisco, Dragnet, c'est Los Angeles, hein. Alors attention, parce qu'il faut pas les, c'est pas les mêmes, hein, tu vois. Tu vas là-bas, c'est pas les mêmes, hein. Alors du Dragnet, il a à fond les manettes en ce moment. Bon, la nouvelle version, hein, dont tu as passé le générique, hein, parce que le générique original.
L'histoire que vous allez voir repose sur des événements.
Et après, c'est remixé, voilà.
Après, bah, c'est la version de, que Mike Post a, a remixé pour la version moderne avec Ed O'Neill et toute la bande. Eva Longoria, enfin, tout ça, quoi. Rosine Sanchez aussi, quoi, qui est maintenant dans Portée Disparue, qui est arrivée dans la quatrième, fin de la quatrième et dans la cinquième saison de Portée Disparue. C'est sur TMC, on peut les voir, mais à la toc, hein, ouais, demain soir à 20h45, il y en a trois, deux de la saison 1, La gloire à tout prix et La mort ne tient qu'à un fil, ainsi qu'un épisode de la saison 2, Le poison dans les veines. Et en plus, demain soir sur TMC, c'est soirée polar américain, Los Angeles, avec après LA Dragnet, t'as LA Homicide, tu sais, Homicide Crime Division avec Tom Sizemore, Michael Paul Chan, c'est le mec que tu vois également dans The Closer là, qui est également inspecteur. Alors là, après trois épisodes de LA Dragnet, trois épisodes de LA Homicide sur de TMC demain soir à partir de 22h55 pour LA Homicide avec Conversation Macabre, Le Prix d'une Vie et Dernier Appel. Et LA Dragnet encore la semaine prochaine, lundi prochain à 22h35 avec quatre épisodes. 3 de la saison 1, Justice Parallèle, L'Enfant Couché et Double Vie, ainsi qu'un épisode de la saison 2, Crime et Châtiment. Ensuite, un petit peu plus loin dans la semaine, Grey's Anatomy, j'aurais bien aimé vous en parler parce que justement, on a plus ou moins été sarcastique à propos de TF1 en préambule. Mais il faut quand même reconnaître que pour une fois, ils ont un petit peu de couilles. Bon, ils avaient déjà eu des couilles pour des programmes plus confirmés, à savoir pour les experts programmés en full frontal comme ça, en prime time, parce que bah les autres faisaient pareil, quoi. En fait, c'est ça. Hein, ils le font, je le fais aussi, normal. Hein. Alors que là, pour Grey's Anatomy, c'était quand même un petit peu plus, on va dire. Plus difficile, quoi, on va dire, parce que la série a eu un petit peu moins de succès, quoi, d'estime, on va dire, en France. Alors que bon, bah, Grey's Anatomy aux États-Unis, c'est quand même,
ça cartonne.
C'est une série qui arrive à dégommer les experts et qui arrive à dégommer, Desperate Housewives en concurrence full frontale, tu vois. Bon, ils le font pas sur l'ensemble de la saison, mais sur quelques épisodes, ça cartonne tellement que, ok, il faut faire gaffe, quoi. Et maintenant, ce qui cartonne vachement dans Grey's Anatomy aussi, c'est, les rumor people avec ouais je me casse, ouais l'autre il est payé plus que moi et tout, ah ouais moi je suis passé à tant de bonus par épisode et tout, genre ouais moi je suis à 200 000 dollars par épisode et tout, quoi, tu vois, cool, ouais, super. Ça c'est les dessous de Grey's Anatomy avec donc prime time, donc depuis mardi dernier, mardi prochain trois autres épisodes de la saison 3 à partir de 20h50, Maud Coeur, ensuite Tous Coupables un -10 et Sous Surveillance, et c'est suivi Grey's Anatomy mardi prochain sur TF1 de Le Tombeau de Jésus, qui est un documentaire de Simcha Jakobici, très récent, hein, de 2007, cette année, c'est à 23h30. Le producteur s'appelle James Cameron. Qu'est-ce que vient foutre James Cameron dans ce truc, mais c'est incroyable. Et en fait, ça suit la découverte parce que bon, il voulait construire des immeubles, des HLM à Tel Aviv, je crois, ou à Jérusalem. Hein. Et ils sont tombés sur 10 sépultures. Et sur les sépultures, il y avait marqué en araméen les noms des différents membres de la famille. De
oui,
Jésus.
C'est ça. Oui, c'était sur les noms de la famille qu'on avait.
On s'est dit, peut-être qu'on a fait une super découverte et tout. Surtout qu'il a fallu utiliser des moyens, des techniques très spéciales, parce que les autorités n'ont pas été d'accord. On s'est dit, oh putain, les boules, sur quoi on va tomber, on sait jamais, parce
les remises en cause. Les chrétiens ont raison, les goy ont raison, fait chier.
Ça, c'est très très sensible. Très 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 sensible. Donc, faut pas y toucher. Ce qui fait qu'ils ont dû, parce que ils ont pu examiner un petit peu les tombes comme ça, vite fait, et ensuite, ils ont reconstruit tout de suite dessus, et il a fallu pour accéder aux tombes prendre des mini caméras, des trucs pas possibles et tout, parce que les accès étaient de nouveau recouverts, tu vois un petit peu le bordel, quoi, pour te dire que ils les ont vraiment pas aidés, hein, vraiment, quoi. Ici en France, on a encore la chance de temps en temps, quoi. Quand un chantier tombe sur un gros truc archéologique, t'as le chantier qui s'arrête pendant 2 ans ou 3 ans, quoi, tu vois, tant que les mecs ils puissent fouiller tous les trucs, ramasser le maximum de reste. Mais là-bas, bon, bah, ils y sont allés à fond les manettes, quoi. Et donc, le documentaire, là, très très intéressant comme ça. C'est dommage, c'est toujours programmé à une heure de pourri. Ce genre de documentaire sur Arte, ils te le foutent en prime time. Et là, bon, bah, c'est TF1, donc on l'aura à 23h30, mardi prochain, Le Tombeau de Jésus. Et alors là, c'est le bordel, mais alors je t'explique pas dans les feuilles. On a également The Evidence sur M6 qu'on avait pu voir sur une chaîne câblée, à savoir Série Club. The Evidence, c'est cette série un petit peu zarbe qui a pas marché. Hein. Elle a fait une saison et puis basta. Pourtant, avec Rob Estes, les dessous de Palm Beach et Orlando Jones, on pouvait se dire que ça pouvait marcher hein, dans le rôle de flic à San Francisco. En plus, ah ouais, hein, toujours San Francisco. Et avec l'originalité de la série, à savoir, était montré en préambule dans chaque épisode eh bien, les différents éléments qui permettent la capture du Evidence, d'où le titre qui s'appelle Evidence, c'est-à-dire preuve en anglais. Quoi. Et, mais ça, bon, bah, le téléspectateur est au courant depuis le début, mais les inspecteurs, bah, eux, ils vont devoir les trouver, ces indices, ces trucs qui permettent de résoudre ou pas l'enquête. Et donc, c'est ce qui fait un petit peu l'originalité. Bon, par ailleurs, ça a quand même un rythme un petit peu lent, on va dire. Hein. C'est ce qui peut-être qui a fait que cette série n'a pas trop marché. C'est quand même regardable. C'est sur M6 mercredi prochain à partir de 23h05. Deux épisodes, l'affaire Jack Miller et l'affaire Jocelyn Gallo. On parle un petit peu de Dexter quand même parce que bon, c'est quand même la série qui est un peu dérangeante comme ça et qui, ben, comme on le disait avant, bien montre un vrai salaud en tant que héros. Et ça, bon, ben, bien entendu. On se disait
les bandes annonces sont flippantes.
Ouais ouais, on se disait ouais, y a pas de problème, c'est une chaîne du câble qui a fait ça, tranquille, ouais, c'est du HBO et tout. Non non, ce n'est pas HBO qui a l'air d'être en perte de vitesse hein, au niveau série novatrice.
Oui, c'est Showtime tout, actuellement hein. Qui prend
la Showtime, il commence à cartonner très très fort et surtout avec Dexter interprété par Michael C. Hall, justement, bah, un ex de HBO puisqu'il était dans Six Feet Under hein, c'est le frère homosexuel de Peter Krause. Qui sort avec le flic Black. Il y a dans Dexter James Remar. Ah, James Remar qui joue le rôle du patron un petit peu protecteur hein, de Michael C. Hall, qui est en fait son rôle de Dexter. Donc, eh bien, la nuit, le jour, il travaille comme expert criminologiste spécialisé dans les taches de sang.
Hein, il a une collection de gouttes de sang.
Et la nuit, bah, il va dégommer des tueurs, hein, c'est-à-dire qu'il rend la justice à sa manière, hein, mais bon, il y prend également un certain plaisir. Hein, c'est un serial killer, quoi. Et donc, c'est le premier serial killer qu'on a. Ouais, non, c'est pas le premier parce que Profit, dans son genre, c'est également un serial killer, indirectement. Enfin bon, et c'est tout à fait jouissif. C'est tiré d'un bouquin qui était paru en épisode en fait. Hein, c'était une rubrique régulière dans un journal, dans un quotidien. Son auteur a décidé d'en faire un bouquin. Puis, vu le succès du bouquin, bah, il en a écrit deux ou trois autres comme ça. Et ben, bah, il a pu superviser également l'adaptation de ses bouquins à la télé et c'est très très bien, ça marche très très fort. Il y a déjà 4 épisodes qui ont été diffusés par Canal+, jeudi prochain 20h50, le 5e et le 6e. Le 5e s'appelle Le Rêve Américain, le 6e Retour à l'Envoyeur. On a également Julie Benz hein, dans Dexter et Lauren Velez. Ah ouais, bah ouais, Lauren Velez mon gars. Ensuite on termine avec les petites soirées. Alors outre la soirée Zodiac Killer donc demain soir sur Canal Jimmy, ce soir, il y a du western. Ah ouais, du western. Alors là, il y a deux facettes de regarder un western. Tout d'abord, à la façon d'un documentaire avec la véritable histoire du Far West ce soir sur Arte à 20h45. Également, un documentaire qui a été initié par des fouilles archéologiques. Là, il s'agit de fouilles archéologiques qui ont eu lieu à Virginia City dans le Nevada. Qui était une ville de chercheurs d'or. Et donc, bah, ils se sont amusés à fouiller et puis à essayer de retracer un petit peu quelle était la vraie vie de ces chercheurs d'or et puis bon de tout ce qui s'était passé à l'époque vu que Virginia City qui était un trou où il y avait rien au départ ben s'est transformé en ville qui à une époque eh bien culminait quand même à 30 000 ou 40 000 personnes.
Oui, ça a été,
donc ça a été énorme quoi.
Ça a été une explosion et puis après ça a dépéri.
C'est un documentaire de Erwin Bartlemo, c'est ce soir sur Arte à partir de 20h45 et si vous préférez la version classique du western voire la version déviante, je vous propose en même temps sur RTL9, le retour de Sabata. Un bon Gianfranco Parolini de 71 avec Lee Van Cleef hein, dans le rôle éponyme. Mais il y a également Rainer Schoene et Annabella Incontrera, le retour de Sabata. Sinon, on a également une soirée Klaus Kinski. Ouais. Sur la chaîne Action, c'est demain soir. Avec, c'est une sélection un petit peu zarbe, mais enfin, on peut s'en contenter quand même, hein, si vous n'avez pas vu. Ça commence par Cobra Verde à 20h40 pardon, sur Action demain soir. Le film de Werner Herzog de 87. C'était la troisième ou quatrième collaboration de Kinski avec Herzog. Hein. Il avait fait Fitzcarraldo, puis avant il y avait eu Aguirre, La Colère de Dieu. Également un autre dont je me souviens pas, quoi, mais qui est encore antérieur de Herzog.
Tu as joué avec Adjani, là, le vampire? Non, c'était après ça.
Nosferatu.
Oui.
Voilà, ben oui, c'est voilà, c'est Nosferatu, voilà, mais c'est après, quoi. Mais il en a déjà fait un autre avant, hein. Donc il en a tourné pas mal avec Herzog. Et, bon, Cobra Verde, bon, je sais pas si tu as vu le film, quoi. Non, non. Tu connais pas l'histoire, bon, c'est un espèce d'aventurier au Brésil et tout, complètement illuminé et tout. Enfin, c'est un Aguirre, mais complètement désordonné, quoi. Complètement, péta au schlock, quoi. Mais c'est quand même assez agréable à regarder. Mais ça vaut pas Aguirre, ou Fitzcarraldo, quoi.
De toute façon, il faut regarder le documentaire de Herzog, sa relation avec Kinski, je sais
pas. Oh là, ouais, ouais.
Il disait que Kinski avait une manière particulière de se tourner, parce qu'il y avait Herzog qui le prenait vachement en gros plan et légèrement en contre-plongée. Et Kinski, en fait, il retournait les talons pour se mettre, en fait, pour faire la rotation complètement déformée. Et c'est ça qui donnait justement le côté je me tourne dans la caméra et je finis mon mouvement quasiment de dos. Enfin, c'est assez visuel et. Voilà.
Ensuite, pour la après Cobra Verde, donc demain soir sur Action avec Klaus Kinski entre autres, il y a un deuxième film avec Klaus Kinski dedans. Alors là, le choix de ce film, moi, ça m'espante quand même un peu. À 22h25, c'est Créature, le film de William Malone de 85. Ah, William Malone, bon, il est pas connu du tout, hein. Je me rappelle pas quel film le plus connu de lui, hein, en catégorie série B ou série Z. Mais par contre, il est quand même renommé parce que, ben, il a quand même tourné un Master of Horror assez récent, quoi. Donc, ben, de la première saison, il y a William Malone. Donc, il est assez connu. Alors, l'histoire, elle est complètement bidon, quoi. En fait, c'est des extraits un groupe de spationautes dont le vaisseau se crache sur Titan, je crois, et ils vont se rendre compte qu'il y a une espèce d'alien, enfin une espèce de bête carnivore qui va les dégommer et tout, quoi, avec un savant fou. Et le savant fou, c'est
Klaus Kinski. Ouais.
Par contre, le film vaut pour ça, pour une scène d'anthologie et culte, quoi. Et c'est certainement la seule main aux fesses de l'espace, dans l'espace, tu vois, quoi. Klaus Kinski, à un moment, qui fout la main au cul d'une nana, qui est une des créatures extraterrestres de la planète, enfin bon, qui lui retourne une tarte. Alors c'est absolument monumental, et tu te demandes, parce que ça n'a rien à voir avec le film, hein, c'est que dalle, il y a absolument rien, quoi, ça ne suffit pas le truc du film. Hop, il a envie de lui foutre la main au cul et tout. Puis, allez, vas-y.
On
donc
si c'est improvisé ou c'était un
ouais, non mais attends, il faut le voir, quoi. C'est rien que pour ça, quoi. C'est carrément incongru, tu vois. Bon, hop, il fout la main au cul. Bon, d'accord, t'as rien compris, c'est pas grave. Voilà, Klaus Kinski, donc, dans cette soirée Action demain soir. Et sur la chaîne Action, pardon, demain soir, à partir de 20h40, Cobra Verde, à 22h25, le film Créature. Je crois que c'est, ouais, c'est tout, hein. J'ai rien oublié, là, quoi. Pourtant, c'était le bordel, hein.
Mon grand Dieu.
Mais on a encore débordé.
Oh, ça, à force, ça devient une habitude, c'est même plus que ça, c'est une tradition. Que serait le supplément week-end sans débordement? Thomas, peux-tu faire le résumé, s'il te plaît, pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Eh mais bien sûr, nous avons une erreur de date dans l'introduction, du nom japonais écorché, une erreur de zap, une l'oreillette qui a encore sonné, une discussion passionnante sur le foot et le rugby, une bastonce sur David Bowie et Duran Duran, un jeu de mots piraté, un jeu de mots qui coule, du Zodiac sans Francis Huster, du gros machin avec des pirates et du communiqué du critique du sport.
Non, d'une palme pour le meilleur bonus du DVD, ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de Supplément Week-end.
C'est lamentable.
Avec les chroniques écrites, mais aussi les commentaires, n'hésitez pas. La suite des programmes sur Radio FMR avec, tout de suite, ça c'est du sport, 17h Big Bang, et à partir de 15h Big Bang, excusez-moi, et à partir de 17h jusqu'à 2h du matin, nous sommes, Radio FMR est en direct du festival Star et Explosion d'usine, c'est à Terre Blanque Saint-Lys, avec en même temps soutien pour une marque de bière consommée avec modération brasseuse, et puis des lives, donc les lives tout à l'heure, Explosion, après la partie Explosion d'usine, c'est à 21h. Tout, Leningrad, tout, semi-playback, le massacre du client de 15h, Gas Mask Terror, Yatai et les DJ Miss France, DJ Hyacinthe et DJ Dancefloor. Voilà, see you. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur cette antenne, même heure, même punition. Et puis, voilà, see you, ciao, bye bye.